France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec l'astrophysicienne spécialiste de la sonification du cosmos, Wanda Diaz-Merced, est notre invitée. Cette chercheuse portoricaine observe la profondeur du ciel avec ses oreilles. Aveugle depuis l'âge de ses 20 ans, elle a mis au point une technique de sonification pour étudier les phénomènes cosmiques invisibles à l'œil nu, comme les vents solaires, les éjections de masse coronale, les rayons cosmiques ou encore la coalescence des trous noirs. Wanda Diaz-Merced utilise le son comme une sorte d'image auditive pour analyser ses signaux. Elle propose ainsi une écoute de l'espace pour finalement mieux le voir et œuvre pour une science accessible à toutes et à tous. Wanda Diaz-Merced, le cosmos se fait entendre. Et Wanda Diaz-Merced, bonjour.
Good morning or good afternoon.
Bonjour. Je ne sais pas si c'est le matin ou l'après-midi. Merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment un honneur. La France, c'est mon deuxième pays. Merci.
Merci à vous. Il est 16h tout pile, l'heure du goûter ici en France. Wanda Diaz-Merced, vous êtes professeure à l'Université du Sacré-Cœur à Porto Rico, astrophysicienne spécialisée en informatique qui travaille au laboratoire Astroparticules et Cosmologie. Merci à vous, Marguerite Capelle, d'être notre voix française. Et merci à toutes et tous d'être à l'écoute en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources sur notre compte à Science CQFD. Alors, nous sommes habitués à expérimenter l'univers avec nos yeux, mais comment imaginer pouvoir le faire avec nos oreilles? De quelle nature sont les données sur lesquelles vous travaillez et quelle est l'importance de l'ouïe pour étudier les datas en radioastronomie? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour, avec la découverte que du ciel, il nous provient des rayonnements invisibles à l'œil nu. Nous sommes en 1957.
En 1931, l'Américain Jansky, ingénieur à la société Bell Telephone, expérimente de nouvelles antennes directrices qui ne peuvent capter que les ondes provenant des émetteurs lointains vers lesquels elles sont pointées. Mais, chaque jour à la même heure, des parasites viennent troubler la réception. Curieux d'en connaître la cause, Jansky explore le ciel avec une antenne mobile et parvient à localiser la région où prend naissance ce bruit, qui se trouve coïncider avec les parties centrales de notre voie lactée. Cette zone vient à passer chaque jour en face des antennes de l'ingénieur et occasionne dans ses récepteurs les crachements qui l'intriguaient. Ainsi, Jansky venait-il de découvrir l'existence d'ondes radioélectriques provenant de la voûte céleste, créant de ce fait la radioastronomie. Bien entendu, peu de gens crurent à cette découverte, à laquelle les astronomes eux-mêmes n'attachèrent pas d'importance. Quelques années plus tard, la publication des curieux travaux du japonais Arakawa tomba dans la même indifférence. Il avait pourtant constaté de façon indiscutable l'apparition de parasites très intenses précédant l'évanouissement brusque des transmissions radio par ondes courtes, parasites qui devaient provenir cette fois du soleil, puisqu'on ne les observait que le jour.
Voilà un extrait de l'émission Heure de culture française, diffusée sur la RDF en 1957. Wanda Diaz-Merced, quelle a été l'importance de Karl Jansky et de la radioastronomie par la suite ?
Karl Jansky est celui qui a justement déclenché les recherches sur les ondes radio. Il a permis aux scientifiques d'y être davantage sensibles. Donc sa contribution pour la radioastronomie, l'idée d'aller au-delà du visible, d'aller au-delà du spectre électromagnétique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais même avant lui, avant Karl Jansky, il y a d'autres personnes qui ont utilisé l'audio, le son, pour visualiser des données. Ça a commencé à la fin du 19e siècle. Il ne s'agissait pas d'ouvrir un nouveau champ de recherche astronomique, mais ils ont bien utilisé pour faire des découvertes cette technique. Karl Jansky, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un nouveau mouvement, une nouvelle direction dans la recherche et en sciences astronomiques. Les chercheurs pouvaient s'intéresser à l'ensemble du spectre électromagnétique. Et c'est vraiment cette contribution qui est importante, qui est pionnière dans le développement de l'astronomie et de la cosmologie et de l'étude des cieux et de notre compréhension de la physique et de l'astrophysique. Excusez-moi, des fois je m'emballe un peu.
Non, vous ne vous excusez pas. Alors aller au-delà du visible, quand même l'astronomie a connu une très longue tradition visuelle.
Indeed, astronomy became.
Oui, c'est vrai, l'astronomie est devenue, au départ, c'est créé comme une science entièrement visuelle. En réalité, elle est devenue surtout visuelle avec l'avènement de la technologie. Avant l'avènement de la technologie, quand on remonte au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on utilisait l'audio. Il y a eu évidemment le moment de la création du télescope optique. Mais malgré tout, il y avait toujours cette recherche aussi du son. La sensibilité visuelle, elle est vraiment très liée à l'essor des appareils technologiques. La majorité des gens qui travaillaient dans ce champ, évidemment, pouvaient voir. Donc, ils utilisaient le sens dominant, qui pour eux était la vue. C'est tout à fait naturel.
Si
je vis dans l'obscurité, ce qui est mon cas en tant que personne aveugle, j'essaie de comprendre le monde autour de moi en utilisant l'audition, les oreilles.
Mais
toutes les données qu'on acquiert, tout ce qui est invisible à l'œil peut être traduit d'une façon qu'on puisse analyser. Et évidemment, le plus logique, c'est le sens humain qui domine, qui est effectivement la traduction visuelle.
For audio technologies to be left out, and
et c'est ce qui a provoqué la mise à l'écart des technologies audio, alors que les technologies visuelles se sont beaucoup plus développées.
Quelles étaient justement ces recherches en matière de son qui ont été pionnières et qui ont été là donc avant l'événement des télescopes optiques?
Optical telescopes from
eh bien, le télescope optique, ça commence, ça remonte aux Arabes qui observaient les espaces. Donc ça date d'avant l'étude des champs électromagnétiques. C'est vraiment au 19e siècle, ça prend son essor, avec le développement aussi du télégraphe, qui est un appareil qui, en utilisant le Morse, permet de transmettre des lettres, un alphabet, et c'est par le signal audio que les lettres sont identifiées et converties en texte. À l'époque, il n'y avait pas de satellite en orbite autour de la planète. On n'utilisait pas d'autres longueurs d'onde. Il n'y avait pas toutes ces fréquences dans le spectre électromagnétique qu'on utilise. On n'avait accès qu'à ce que les antennes pouvaient capter. Plus tard, des gens comme Halliwell, Jansky ont pu traduire d'autres ondes sous forme radio et observer des choses qui étaient invisibles à l'œil nu. Et ensuite, comme je le disais, excusez-moi de me répéter, mais il y a eu encore un ou deux autres chercheurs comme Halliwell qui ont développé des études non pas sur la perception humaine, mais sur l'acquisition de données grâce aux antennes, des antennes qu'ils avaient parfois tout simplement dans leur jardin. Et ils essayaient d'acquérir ces données, de les traduire en audio et d'analyser ces données. Ce qui est très curieux, c'est que ces travaux pour décrire des phénomènes sont des travaux qui faisaient allusion au son. Par exemple, il était question beaucoup de bourdonnement, de tintement. Ce sont les mots qu'ils utilisaient pour décrire l'expérience de la personne qui analysait les données. Donc, en fait, ils étaient nombreux à utiliser ce sens pour comprendre les données. Et c'est peut-être pour ça que Jansky a créé cette antenne qu'il pouvait orienter, une antenne mobile qui lui permettait d'écouter directement les données. Et c'est en écoutant qu'il a vraiment compris le contexte galactique. Et il y a eu ensuite un docteur Ronald Gournet qui, au moment de lancer des satellites dans l'espace, a été le premier à avoir l'idée, en tout cas c'est ce que je comprends, de traduire les données renvoyées par les satellites sous forme audio. Donc le satellite allait capter des données et on allait pouvoir, évidemment ça prend du temps pour que ces données nous parviennent, mais on était en mesure d'écouter ces informations. Donc c'est lui qui a eu cette idée en écoutant des enregistrements audio. Et ensuite, après lui, on a utilisé de moins en moins ces données audio, cette traduction audio, à tel point qu'on en est arrivé à un moment où on ne l'utilisait que pour la sensibilisation et l'enseignement. Mon mentor, l'administration de l'astrophysique des astronautes aux États-Unis, Robert Candy, lui, il avait toujours été très fan de l'audio. Il croyait vraiment au pouvoir du son pour explorer des informations qui, pour lui, étaient invisibles à l'œil nu et pour augmenter la sensibilité humaine et pour avoir accès à des choses que sinon on ne verrait pas. Et lui, ça faisait un moment qu'il essayait d'utiliser le son. Et quand je lui ai demandé d'être mon mentor, j'étais justement en train de perdre la vue, ce qui a été un processus assez long. Au début, il m'a dit, eh bien, créons quelque chose pour les personnes aveugles, pour pouvoir profiter de ces informations, pour se familiariser avec ces données. Et je lui ai répondu, mais moi, je ne veux pas me familiariser, je veux faire de la science. Et il m'a répondu, eh bien, à toi de jouer. Et c'est comme ça qu'on a créé ce prototype qui permettait de traduire les données en audio avec une bonne résolution, une résolution de qualité, pour pouvoir écouter les informations, comparer les chiffres et continuer à vraiment suivre l'évolution des données. Et ça nous a ouvert tout un champ, pour moi en tout cas, un nouveau champ, parce que pour faire une expérience, au départ, on croyait que cette expérience serait réservée à la sensibilisation, à l'éducation, et il s'agissait cette fois-ci véritablement de faire de la science. Mais pour faire de la science, on a besoin de preuves scientifiques. On a besoin de développer les technologies. Et il a fallu un rattrapage de ces technologies qui avaient été laissées un peu de côté. Un rattrapage par rapport aux technologies visuelles. Et donc, on a justement mené cette expérience et on a constaté que la donnée audio permettait d'augmenter la sensibilité des scientifiques. Et bien sûr, c'est très enthousiasmant, mais ça a aussi fait naître l'idée que la perception visuelle était utilisée de façon prédominante sans que la preuve ait été apportée qu'elle était réellement supérieure à la perception auditive. Et c'est comme ça qu'on a développé de nouvelles techniques de sonification pour pouvoir écouter les données, mais aussi pour apporter des éléments de preuve, pour améliorer les méthodes d'analyse des données et qu'il y ait différentes options disponibles et pour étendre la gamme de personnes qui peuvent participer et contribuer à cette science incroyable qui nous permet de comprendre à quel point nous appartenons à l'univers et que l'univers nous appartient à tous et qu'on a tous quelque chose à contribuer dans cette étude.
Bien justement, comment avez-vous eu l'intuition que le son pouvait être une méthode complémentaire de l'étude visuelle, que le son peut également aider les astronomes voyants dans leurs recherches? Bref, quel est votre parcours? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Écoutez France Culture et l'astrophysicienne Wanda Diaz-Merced qui travaille sur la sonification et l'analyse des données du ciel à travers le son. Nous venons de voir en quoi consiste en quelque sorte la sonification de l'espace. Mais un mot sur votre parcours. Wanda Diaz-Merced, vous êtes originaire de Gurabo, une petite ville de Puerto Rico sur l'île des Caraïbes. Vous avez fait votre scolarité là-bas. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez été mordu par la passion des sciences?
Yes, thank you for the question.
Oui, merci pour cette question.
I did study in Gurabo.
Oui, j'ai étudié à Gurabo, donc ma ville d'origine. Et la curiosité que j'ai pour la science remonte vraiment à l'enfance. J'allais pêcher avec mon père et il me disait toujours qu'il fallait que j'étudie. Si on pêchait avec mon père et ma mère, c'était pour manger. Et quand on pêchait, à l'époque, je pouvais voir. Et j'ai vu deux boules lumineuses traverser le ciel. Et j'étais vraiment très surprise. Je trouve ça incroyable. Je me suis demandé ce que c'était. Et il m'a répondu très sérieusement. Eh bien, ce sont des cailloux qui tombent du ciel. Il était très sérieux. Et puis, il s'est retourné, il a continué sa pêche. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ma surprise, mon émerveillement, venait de la dimension mystique et magique du phénomène. Comme un pouvoir, un être supérieur. Je respecte toutes les religions, j'ai la mienne. Mais ce qu'il a fait vraiment, c'est qu'il m'a vraiment ancrée dans la science.
Vous venez d'une famille modeste. Vous avez été soutenue dans votre parcours scientifique.
Oui, ma famille est extrêmement modeste. Et je suis très fière d'eux. C'était dit que la vie était difficile. Il a fallu se battre et se, je veux dire par là, travailler beaucoup pour avoir accès à des études, etc. Mon principal soutien, c'était mon mentor à la NASA. Et puis, l'ancien directeur du laboratoire d'astroparticules et de cosmologie à l'Université de Paris-Cité, qui m'a énormément soutenu également pour écrire des projets scientifiques qui nous ont permis de mener des recherches européennes. Donc Bobby Candy de la NASA et le docteur Castanevas, ils ont essayé d'utiliser ces techniques audio et de les projeter dans un nouvel univers, dans un domaine que je ne pensais pas pouvoir atteindre un jour.
Avant de parler justement de comment vous êtes emparé justement de cette technique de la sonification, lorsque vous avez 20-21 ans, on vous diagnostique une rétinopathie diabétique, conséquence de votre diabète. Et donc, vous êtes atteinte de cécité, vous étiez alors en licence de physique, mais est-ce que à ce moment-là, vous ambitionnez déjà de faire de la recherche?
Oui, alors moi, je voulais être médecin.
I didn't want to be a researcher.
Moi, je ne voulais pas être chercheuse. Ce que je voulais, c'était soigner les gens.
Then when I heard, audification of
et puis,
data,
quand j'ai entendu parler de cette technique de sonification, tout de suite, je me suis dit que c'était ça, le chemin, et que c'était ce qui me permettrait de continuer les sciences. J'étais en train d'abandonner. Et en fait, ça m'a redonné espoir. Ça m'a permis de trouver un chemin pour avancer.
Alors, le premier son que vous avez entendu après avoir perdu la vue, c'est ce projet de la NASA qui vous a inspiré, le projet Radio Jove. Et vous avez entendu ceci, un sunburst. Wanda Diaz, Merced, qu'est-ce qu'on entend là? Qu'est-ce que...
Ce que nous entendons, c'est un choc entre onde, une éjection de masse coronale qui a été captée en 2004. C'était en temps réel et c'était la première fois que j'entendais ainsi des données audio. Donc c'est très sentimental pour moi. Merci beaucoup de me l'avoir fait réentendre.
Je vous en prie, merci à vous, Wanda Diaz-Merced. Alors, ce sunburst, on est d'accord que c'est une transposition à des fréquences audibles de signal radio d'une éruption solaire. C'est ce qu'on appelle de l'audification des données.
Oui, c'est la traduction directe de données en son. Donc ces explosions solaires émettent de l'énergie et donc il y a d'un seul coup une augmentation de l'énergie pour différentes raisons, ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. C'est quelque chose qui se traduit justement par cette explosion solaire. Et donc, ça va augmenter les ondes émises. Et ces ondes nous parviennent sur Terre par voie aérienne. Et nous les captons grâce à nos antennes. Nous captons ces augmentations en intensité. Et en temps réel, nous les traduisons en audio, en son. C'est exactement ce que faisait Jansky avec un équipement électronique tout simple. C'est ce qu'on a fait et c'est comme ça qu'on a pu écouter. Et vous me pardonnerez de vous dire ça, mais au début, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est très laid. J'ai demandé à Emilio, mon ami, d'éteindre la radio. Et c'est lui qui m'a dit, mais c'est peut-être une explosion solaire en temps réel qu'on est en train d'entendre. Et tout a changé pour moi. J'avais perdu tout espoir et d'un seul coup, tout était possible. Je me suis dit, mais je peux écouter ça. Est-ce que je peux en faire de la recherche? Et beaucoup de possibilités me sont venues.
Tout était possible puisque, en effet, vous obtenez une licence à un master de physique à l'université de Puerto Rico. Vous partez à l'université du Massachusetts à Boston pour faire votre thèse en astrophysique. Elle porte sur les sursauts gamma, mais sur quoi porte-t-elle plus exactement?
Oui, ce que j'étudiais à Boston, en fait, ça a été le premier moment où j'ai pu écouter des données qui étaient effectivement des sursauts de rayons gamma, et c'était le son et la forme d'onde la plus puissante et la plus dynamique qu'on puisse écouter. Quand on a pu entendre cette intensité et comprendre l'augmentation de cette intensité, ça a été vraiment quelque chose qui nous a complètement réorienté dans la manière d'analyser ces intensités. On a pu certifier que ces échos, ces résonances étaient créés par des fluctuations qui trahissent des interférences entre différents éléments. Ce ne sont même pas des interférences, c'est des créations d'éléments à partir de ces interactions. Ces éruptions énergétiques supermassives créent des interactions. Et on a parlé de résonance, d'ondes de résonance. Même en audio, on entend cette forme de résonance. Et ça montre que certains éléments vitaux pour la vie, pour la création même de notre existence, naissent au moment où les étoiles meurent.
Alors cette résonance, écoutons-la justement. Wanda Diaz, merci. Un sursaut gamma sonifié, ça donne ça.
Indeed, and then at the beginning, if you wouldn't, if I wouldn't
oui,
be,
exactement.
If it wouldn't be so fast,
et si ça n'allait pas aussi vite au tout début, ou en tout cas à 8 secondes du début, je peux vous entendre éventuellement si vous voulez vous faire entendre la totalité du son. On entend justement cette résonance qui s'exprime sous une forme de diminution de fréquence.
So it goes down a little bit and then it
donc,
continues.
Ça baisse et puis ça repart. Et il y a ces augmentations, ces variations. C'est le comportement des photons qui est intéressant. Parfois, les photons, au milieu de leur trajectoire, rencontrent des objets qui diminuent leur charge énergétique. Mais ça ne veut pas dire que l'intensité diminue. Ça veut seulement dire qu'ils rencontrent d'autres obstacles et qui créent ces résonances. C'était quelque chose de très important parce que je suis allée voir un de mes collègues qui, lui, était voyant et je lui ai dit, j'entends, j'écoute des changements, des modifications. Je me base sur les mesures d'intensité qu'on a faites et ce que j'entends, c'est qu'il se passe quelque chose. Et il m'a répondu, c'est que du bruit. Quand on parle de bruit, on veut dire que ce sont des données inutiles, superflues, quelque chose dont il faut se débarrasser. Il faut changer cette perception du bruit. Le bruit n'est pas quelque chose de négatif, c'est une information. Le bruit, c'est la vie. Le bruit a énormément de potentiel et de choses à nous dire. Donc, j'ai dit non. Il y a quelque chose. Vérifions. Utilisons la mathématique. Et vérifions ta vue contre mes oreilles. On verra bien s'il se passe quelque chose. Et on a pu les trouver, ces résonances. Désolée, je parle longuement.
Ah non, mais c'est passionnant. Mais en fait, vous voulez dire que pour des données en astrophysique, si nous ne voyons qu'avec nos yeux, finalement, notre perception est fortement diminuée?
Oui, c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. En particulier, quand on a tous les sens, si on utilise une perception multisensorielle, on peut aller beaucoup plus loin. On peut être humain au moment où on analyse des informations. Il nous arrive de compenser quand les yeux fatiguent, on peut passer à l'ouïe. On peut utiliser aussi les vibrations pour étudier un jeu de données. Donc vous avez entièrement raison.
Mais alors comment techniquement ça fonctionne, Wanda Diaz-Merced? Parce que par exemple, pour l'imagerie traditionnelle, on a déterminé que les fréquences basses se trouvent dans le rouge, les couleurs les plus bleues correspondent aux plus hautes fréquences, comme dans le spectre électromagnétique. Mais alors comment ça marche pour le son?
Oui, c'est ça. Quand on travaille en audio, on prend les données chiffrées qui ont été captées et on les transcrit dans le champ audible par l'humain, la perception humaine que nous avons des sons. Et donc, on indique la fréquence la plus basse et on la traduit de façon à ce qu'elle soit perceptible par l'oreille. Et de la même façon, on procède pour les fréquences les plus élevées. Quand on étudie des images, il y a des choses qui ne sont pas faciles à voir. Ça peut être des teintes, ça peut être des changements de couleur et la transition aussi entre deux couleurs. L'audio permet d'avoir l'intensité réelle transcrite dans le champ auditif. Et donc, ces fréquences visuelles et leurs variations peuvent se traduire de façon sonore. Moi, je dois admettre que je suis très ignorante sur le plan visuel. Ce que je sais, c'est que quand ces variations se produisent, à l'oreille, on peut entendre d'infinis fragments de changement d'une mesure, d'une donnée à l'autre. Ça nous permet d'avoir une meilleure perception des transitions entre un événement et un autre événement, de comprendre aussi comment des phénomènes peuvent se combiner ou pas. Passer du bleu au rouge ou du rouge au bleu, c'est quelque chose qu'on utilise dans le champ électromagnétique, mais la vérité, c'est qu'il y a bien plus à voir que ce que nos technologies nous permettent de montrer. Et la vérité, c'est que l'œil lui-même est limité. Quand je traverse la rue, j'utilise mes oreilles. Mais ma mère ou vous, quand vous traversez la rue, vous utilisez à la fois vos yeux et vos oreilles pour traverser en toute sécurité. C'est pour ça que utiliser tous ses sens est une manière d'augmenter sa sensibilité aux événements et sa vigilance, et de percevoir des choses qui passeraient complètement au-dessus de l'œil humain. Quand on parle notamment de la palette de couleurs, celle qui est utilisée pour traduire l'énergie en astrophysique ou les fréquences qui peuvent être parfois plus basses que les composantes des formes, des données que nous connaissons. Désolée, je suis un peu longue, donc n'hésitez pas à m'interrompre. En tout cas, ce sont des expériences qui sont extrêmement excitantes.
En tout cas, voilà, comme vous dites, nous ne sommes capables de voir qu'une infime partie du spectre électromagnétique, c'est la lumière visible, pour voir entre guillemets au-delà. On doit s'appuyer sur d'autres méthodes, celle de l'astronomie multimessager. Restez avec nous. Vous écoutez France Culture et Le Noir de l'Étoile, album musical de Gérard Griset et des percussions de Strasbourg qui adaptent en musique le son d'un pulsar. Nous avons la joie et l'honneur de nous entretenir une heure avec Wanda Diaz-Merced, professeure à l'Université du Sacré-Cœur à Porto Rico et astrophysicienne au laboratoire Astroparticules et Cosmologie. Alors, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la sonification de l'espace, Wanda Diaz-Merced, ça n'a rien à voir avec une approche musicale.
En fait, ça pourrait se traduire en musique. Beaucoup de gens ont fait de la musique, ont créé des performances musicales absolument splendides. En utilisant justement ces sonifications, ces traductions audio, c'est très important de faire le lien, de porter ça dans le contexte humain. Dans ce que j'écoute pour mes recherches, on a des attentes harmoniques. La manière dont j'écoute les données n'a rien à voir effectivement avec la façon d'écouter de la musique. Mais par exemple, au Luxembourg, fin juin, il va y avoir un concert. Un concert très important basé justement sur la sonification en astrophysique. Le contexte culturel en Europe s'y prête tout à fait et ça permet d'entendre tout ça d'une façon qui soit aussi séduisante et qui parle aux gens. C'est aussi un élément culturel. C'est une question aussi d'amour pour l'humanité et pour une esthétique que nous permet cette perception du monde naturel.
Wanda Diaz-Merced, vous étudiez les phénomènes dits extrêmes du cosmos. Quel phénomène extrême, par exemple, la sonification vous permet d'étudier ?
Eh bien, j'ai étudié les rayons cosmiques, qui sont des particules extrêmement rapides qui voyagent pratiquement à la vitesse de la lumière, mais pas tout à fait. J'ai étudié les bulles plasma dans notre atmosphère. J'ai étudié les échanges d'énergie entre deux étoiles qui interagissent, des étoiles variables. J'ai étudié aussi les ondes gravitationnelles à l'Université Paris-Cité. J'oublie probablement un ou deux sujets. J'ai aussi étudié les interactions entre les vents solaires et les rayons cosmiques et notre atmosphère. Je crois que j'ai étudié beaucoup de sujets différents, mais il y a quelque chose que je dois ajouter à la liste. Vous avez posé cette question extrêmement importante du soutien que j'ai pu avoir. Mes mentors, Bobby Candy et Carlos Castanevas et la Royal Academy of Science et d'autres institutions m'ont énormément soutenu pour développer la confiance dans ces techniques multisensorielles d'analyse des données.
Vous travaillez, pour étudier tous ces phénomènes, vous travaillez, Wanda Diaz-Merced, essentiellement ou plus facilement avec les données des radiotélescopes qu'avec celles de télescopes normaux ?
That is a very good question.
C'est une très bonne question. J'utilise tout ce qui me tombe sous la main. Les données ne sont pas facilement accessibles. Donc, je dépends d'autres personnes qui m'envoient ces données. Tout ce qui m'est adressé, je l'étudie. Je prends toutes ces informations parce que quand on fait de la recherche, quand on travaille sur sa thèse, évidemment, on se concentre sur un sujet en particulier, mais parfois on reçoit des données, quelqu'un qui est tombé sur des données intéressantes à enregistrer, une pulsation solaire par exemple, et je me dis, tiens, mais il faut que j'aille creuser. Et je me demande toujours aussi pourquoi on me donne accès à ces informations, pourquoi on me les rend accessibles à moi. Je n'ai pas accès aux manuels scolaires. À l'université, il n'y a pas ce genre de choses. Donc, il y avait un écart, évidemment, et j'ai senti que je devais compter sur les autres pour les lire pour moi. Et donc, quand j'ai des données, je m'y plonge. Et c'est presque une danse cosmique dans ma tête que j'imagine au fur et à mesure que je danse avec ces données. C'est comme un phénomène d'oscillation.
Est-ce que vous attendez avec impatience la mise en service du radiotélescope géant, le SCAR, le Square Kilometer Array, le plus grand radiotélescope du monde en construction qui devrait être opérationnel d'ici 2027? Oui,
évidemment, et je veux que les données soient publique, qu'elle soit accessible à tous. Les nouveaux satellites qui sont en train d'être lancés, je sais qu'il y a deux ans, la France a lancé un satellite et qu'il y en a d'autres qui vont être bientôt mis en orbite et d'autres technologies aussi, d'autres données cosmologiques sur les ondes gravitationnelles qui vont être accessibles.
On continue de tendre l'oreille vers le ciel avec le reportage du jour. Dans l'espace, aucun son ne se propage, mais comme nous l'avons évoqué, les observations astronomiques peuvent être rendues audibles via des techniques informatiques. Cette technique a été mise au point par un astrophysicien français au début des années 90, et vous l'avez rencontré, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha. Philippe Zarka, en effet, a eu l'idée de traduire en fréquence sonore les signaux cosmiques à la suite d'une intuition et de la découverte d'une machine de l'IRCAM qui retranscrivait en son des dessins en temps réel. Alors pour l'astronomie, le principe et de convertir ces signaux en spectres de fréquences pour en créer des images sonores. En 1992, cet expert de la radioastronomie applique ce principe pour traduire en son les rotations de Jupiter captées par la sonde Ulysse. Et depuis plus de 30 ans, il s'adonne à cet exercice de sonification pour offrir des écoutes inédites. Soleil, pulsar ou trou noir, avec comme objectif de sensibiliser au cosmos autrement que par les yeux.
Ça, c'est le tout premier son en 1992 que j'ai créé. Et donc, c'était vraiment une surprise. Je ne savais pas ce qui allait sortir. Et comme il était bien, j'ai rien changé. En fait, on pourrait le transcrire de manière différente. Donc, les fréquences réelles vont de 1 kHz environ à 1 MHz. Hein. Donc, de 1 à 1000 kHz. C'est évidemment très au-delà de la gamme audio qui, elle, ne va que jusqu'à 20 kHz au maximum. Bon. Donc, en fait, il y a une opération qui consiste à prendre les fréquences observées et à les translater et les comprimer dans la gamme sonore. Quand on fait ça, évidemment, on peut choisir où on va dans la gamme. Par exemple, je peux rassembler mes sons entre 500 Hz et 12 kHz, auquel cas ils seront très aigus. Je peux aussi en mettre beaucoup plus aux basses fréquences.
C'est un choix arbitraire ou esthétique, en fait.
Oui, le choix de la gamme dans laquelle je translate mes sons est complètement arbitraire. En tout cas, la fréquence min, la fréquence max et l'étagement des fréquences. En général, je prends un étagement logarithmique parce que l'oreille est logarithmique. Sur un clavier de piano, entre un do et le do suivant, la fréquence est multipliée par deux à chaque fois. Donc c'est ce qu'on appelle une progression géométrique et qui se traduit de manière régulière par un logarithme, en fait. Le logarithme est une progression arithmétique. Donc en fait, je mets mes sons là-dedans et puis le son d'origine durait 10 heures. On n'allait évidemment pas l'écouter pendant 10 heures. Donc moi, je l'ai comprimé à 10 secondes, là, en l'occurrence. Et ça a donné ça.
Alors, faut préciser que là, on peut visualiser un balayage, on voit émerger des figures, donc avec des couleurs qui doivent correspondre aux énergies, on s'imagine.
Aux intensités. En fait, je m'étais dit, bon, alors, la conversion de mes données en son, c'est une chose. Après, comme mon but, c'était d'illustrer les observations que je faisais et que les sons soient en fait une accroche pour intriguer les gens et qui demandent, mais qu'est-ce que c'est ? Donc mon intérêt, c'est aussi de montrer l'image, c'est-à-dire l'image que j'avais interprétée comme un sonogramme. Cette image, de manière générale, s'appelle un spectre dynamique. Spectre parce que décomposé en fréquence, dynamique parce que ça varie au cours du temps. Et donc là, dans le spectre dynamique de Jupiter en question, on voit un fond bleu qui représente le zéro, et puis on voit des pâtés plus intenses, représentés plutôt en rouge, des choses qui glissent en fréquence et dans le temps. Ce sont comme des radiophares naturels dans l'environnement magnétisé de Jupiter. Donc ce qu'on appelle la magnétosphère de Jupiter, c'est une bulle magnétique dans laquelle il y a des électrons accélérés qui produisent des ondes radio. Ça fait comme des phares qui tournent avec la planète. Et donc là, ce qu'on a entendu, c'est la succession des phares qui balayeraient l'observateur lors d'un tour de la planète en 10 heures. Un que j'aime beaucoup. Dans les années 90, en fait, j'ai entamé une collaboration avec les radioastronomes ukrainiens de l'Institut de radioastronomie de Kharkov. C'est très triste parce qu'actuellement, leurs outils de travail sont détruits par la guerre. Dans le cadre de cette collaboration, on avait emmené des récepteurs près du télescope et on avait observé divers objets, dont notamment des pulsars. Et alors un pulsar, c'est une étoile morte. Donc vous imaginez une boule ultra dense de quelque chose qui ressemble à des neutrons. Alors ça émet des impulsions régulières, radio, parce qu'il y a toujours de la matière chargée, des électrons.
Dans une direction.
En fait, en direction des pôles magnétiques Et comme l'étoile tourne, de temps en temps, ses pôles nous balayent. Et donc, si on était près du pulsar, en fait, et qu'on soit balayé par le faisceau radio qui vient de l'un de ses pôles à chaque tour, en traduisant ces ondes radio en son, on obtiendrait ceci. Voilà, ce qu'on entend littéralement, là, c'est les tours du pulsar. Imaginez cette sphère de 20 km.
On peut visualiser un peu mieux.
Alors donc, pourquoi on entend des espèces de battements ? Parce qu'on a des émissions à plein de fréquences, sur une gamme de fréquences très vaste, qui est émise tout en même temps, qui nous balaye tout en même temps. En réalité, il met 100 ans aux plus hautes fréquences, et 100 ans et 10 secondes aux plus basses fréquences. Et on va observer la différence.
Comment ça se traduit ?
Ça se traduit comme ça.
C'est un son dégradé ?
Voilà, ça va se traduire comme ça. On a l'impression d'un... C'est l'illusion sonore d'un son qui descend en fréquence sans arrêt. Il chute sans arrêt. Alors, on n'entend plus la pulsation, vous remarquez. Pourquoi ? Parce que chaque impulsion est étalée sur plus que la durée d'une pulsation. Donc, elles se mélangent. On les voit sur l'image, les pulsations, mais on voit qu'elles se mélangent toutes. Et comme elles rentrent à partir des aigus sans arrêt et qu'elles vont vers les graves, on entend cette descente permanente vers les graves.
Vous avez parlé de phénomènes à partir de signaux dans le domaine radio, donc de la lumière. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres messagers ? Aujourd'hui, on parle d'astronomie multimessagère, les ondes gravitationnelles, les rayons cosmiques, les neutrinos. Est-ce qu'il serait possible d'appliquer à ces objets-là, médiateurs, cette opération ?
Oui, bien sûr. Comme vous le disiez, dans l'astronomie multimessagère qui se développe aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup d'autres signaux temps fréquence qu'on peut traduire en son. Et vous avez cité, par exemple, les ondes gravitationnelles. C'est un parfait exemple qui donne ce qu'on appelle un chirp, un son qui va vers les aigus très brutalement vers la fin.
Ah oui, la coalescence des trous noirs ou des étoiles à neutrons.
Hop, voilà, ça fait un truc comme ça. Alors, je ne l'ai pas traduit, là, mais c'est une bonne idée, il faudrait que je le fasse. Mais
ça
voilà.
Existe,
hein. Oui, ça existe, évidemment. Ça s'y prête très bien. Alors, un son que j'avais créé à partir d'observations en rayons X, qui m'avait été passé par mon ami et collègue Michel Tagère, on a appelé ça ensemble le dernier cri de la matière qui tombe dans un trou noir. Et un trou noir, c'est un aspirateur à matière, hein. c'est comme un lavabo en fait, hein, avec la bonde dedans. Eh bien c'est pareil, un trou noir c'est un aspirateur à matière, et la matière ne va pas tomber en général directement dessus, elle va se mettre à tourner autour, tourner très très vite, devenir très très chaude à cause des collisions, et émettre des rayons X. Et ces rayons X, ils sont modulés ensuite à certaines fréquences qui correspondent à la vitesse de rotation autour du trou noir. On peut avoir des fréquences de 1000 tours minute, ou 1000 tours seconde même. Et donc c'est ce signal en rayons X qu'on a traduit pour s'amuser. Voilà, là on a un bourdonnement basse fréquence, qui est le bruit des données, et puis le sifflement, hop, qui vient de varier, qui monte, qui descend, c'est la fréquence de cette matière en rotation, dont le rayon en fait va varier au cours du temps, donc la fréquence va varier aussi, avant de tomber finalement dans le trou noir. Et voilà, donc, le dernier cri.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo, sur votre appli préférée, bien sûr, l'appli Radio France. Wanda Diaz-Merced, pour compléter ce qui vient d'être dit et entendu, comment pourrait-on encore développer le domaine de la sonification pour aller encore plus loin ?
On doit vraiment augmenter la crédibilité de cette technique, de ce moyen et de tous les outils de perception sensorielle qu'on peut avoir dans les sciences.
Late mentor, he's dead now.
Feu, mon mentor, le docteur Katsanevas, était justement en train de travailler là-dessus. Nous avons besoin d'expérimenter sur ces perceptions et nous avons besoin de transformer l'économie scientifique monosensorielle pour en faire vraiment une économie scientifique multisensorielle, pour que les gens soient en mesure de faire des recherches, des explorations beaucoup plus complètes sur la base des informations dont ils disposent. On a besoin de tout ça, d'expérimenter sur les perceptions et de développer les techniques multisensorielles. Je ne parle pas d'accessibilité là. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet auquel je m'intéresse. Ce dont je parle là, ce sont les méthodes et les techniques multisensorielles sensorielles qui doivent être rendues accessibles à tous les scientifiques. Et dans le cas présent, cette technique d'audification, de sonification qui permet d'explorer les matériaux dont ils disposent. J'espère que les institutions scientifiques consacreront du temps à ces recherches pour vraiment augmenter la fiabilité de ces méthodes. Il n'y a pas d'institution qui fasse ça actuellement à l'échelle internationale, mais nous espérons que certains vont se lancer, comme le docteur Castaneves le faisait, et que pour le bien de la science, nous pourrons avancer là-dessus. Et c'est aussi pour le bien de tous et de toutes les sociétés. Nous avons besoin de développer la science, la recherche, mais pour ça, il faut développer la fiabilité de ces techniques pour qu'on puisse réellement comprendre que c'est au service de la recherche bien au-delà d'une dimension artistique, qui est très intéressante, mais ça va bien au-delà.
Ce que vous dites, ça me fait penser à un extrait d'une de vos interviews, Wanda Diaz-Merced, où vous dites « Peut-être qu'en utilisant tous nos sens, l'humanité parviendra à comprendre que chacun peut contribuer à la connaissance humaine sans distinction. »
Oui.
Même en utilisant par exemple l'audiovisualisation, tous les humains, quels qu'ils soient, peuvent être inclus. C'est ça que nous voulons. Nous voulons contribuer à la science, mais avec tout le contexte de l'expérience humaine, en apportant tout ça dedans et en facilitant pour tous les humains la compréhension que la science, elle appartient à tous. La science n'appartient pas que à ceux qui peuvent voir ou à ceux qui sont dans cet univers fermé que sont les laboratoires. Et parfois, c'est littéral, on est vraiment obligé de s'enfermer pour étudier les informations, mais ce que je veux dire, c'est que la science appartient à tous. Et c'est même aussi parfois pour la sécurité, pour la vigilance, par exemple, comment est-ce que les gens travaillent dans les aéroports pour surveiller les vols. Je connais quelqu'un qui travaille sur l'utilisation de la sonification pour la surveillance des nouveau-nés dans les services de réanimation. Ça peut bénéficier à tout le monde. Les applications sont inimaginables et c'est ça qui est excitant. Mais nous avons besoin d'infrastructures de recherche et que les infrastructures de recherche dans les différents pays y croient, investissent pour pouvoir vraiment avoir une confiance du monde scientifique dans ces techniques et qu'elles se mettent à l'utiliser.
Merci pour ce mot de conclusion. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbo, mais mille merci, Wanda Diaz-Merced, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure.
Thank you so much. Thanks to you.
Merci beaucoup.
Vive la France.
Merci. Tout de suite, on quitte l'astrophysique. On revient sur Terre. Les 10% les plus riches sont responsables de 2/3 du réchauffement climatique. C'est la chronique avec science.
Quelle est la contribution des plus riches au réchauffement climatique? Ce qu'on savait jusqu'à maintenant, c'est que les plus riches contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre. Une évidence, mais les chiffres précis sont assez récents. Une précédente étude menée par l'économiste Lucas Chancel arrivait à la conclusion qu'en 2019, les 10% des plus riches étaient responsables de près de la moitié des émissions mondiales, quand les 50% les plus pauvres n'y contribuent qu'à hauteur de 10%. Ça, c'est pour les émissions, mais qu'en est-il du réchauffement et des événements extrêmes? C'est ce qu'a voulu comprendre cette nouvelle étude parue dans Nature Climate Change. Fanny Henriet est économiste, directrice de recherche CNRS au laboratoire Aix-Marseille School of Economics et autrice de « L'économie peut-elle sauver le climat ?» parue au PUF. Elle nous explique la méthodologie de l'étude.
D'abord, ils observent les émissions entre 90 et 2019. Ensuite, ils les répartissent par groupe de revenus, donc ça veut dire que les émissions sont attribuées à la consommation ou à l'investissement, et donc in fine à des individus, donc à des groupes d'individus plutôt, le top 1%, le top 10%, etc. Ensuite, une fois qu'ils ont ça, ils construisent des scénarios contrefactuels, c'est-à-dire des scénarios imaginaires dans lesquels certains groupes n'auraient pas émis autant. Donc, soit ils auraient mis comme la médiane de la population mondiale, soit ils n'auraient pas émis du tout. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comparer avec des modèles climatiques qu'auraient donné ces mêmes modèles climatiques, mais avec les émissions des 10% les plus riches en moins ou les émissions des 10% les plus riches ramenées à la médiane de la population. Et donc, avec ces nouvelles trajectoires contrefactuelles d'émissions, ils en déduisent des trajectoires de température et ensuite, ils utilisent donc des modèles climatiques régionaux pour avoir une idée des événements extrêmes, des vagues de chaleur, etc., qui peuvent être attribuées à ces émissions supplémentaires.
Premier résultat, parce qu'ils sont nombreux, les 10% les plus aisés au monde sont responsables de 2/3 du réchauffement climatique depuis 1990. Selon ces scénarios contrefactuels, si toute la planète avait émis comme ce groupe, la température aurait augmenté entre les années 90 et 2020 de plus 2,9 degrés. Ces 10% les plus riches ont contribué 7 fois plus que la moyenne aux événements de chaleur extrême et 6 fois plus aux sécheresses en Amazonie par exemple. Et c'est un autre résultat important de l'étude avec cette approche géographique, les régions du monde qui sont les plus touchées par ces événements extrêmes ne sont pas là où se trouvent les responsables, donc les plus riches. Et c'est la double peine, ceux qui polluent n'en subissent pas vraiment les conséquences. Mais qui sont les plus riches dont on parle ici? Qui pollue finalement? Ce sont ceux qui gagnent dans une année plus de 43 000 euros bruts. On comprend vite qu'on ne parle pas d'ici des milliardaires, mais d'une grande partie de la population des pays dits développés. Par exemple, en France, selon les données de l'INSEE de 2023, un tiers des salariés rentrent dans cette catégorie des 10% les plus riches de la planète. La question maintenant, c'est quelle est la solution pour rétablir une forme de justice climatique? L'étude soulève la possibilité d'une taxe sur la richesse, mais ce n'est pas si simple.
Ça peut effectivement régler une partie du problème de justice climatique, mais par contre, ça ne résout pas le problème en lui-même du changement climatique dans la mesure où ça va dépendre de comment on utilise les recettes de cette taxe et en particulier si on utilise les recettes de cette taxe pour les redistribuer aux plus pauvres sous forme, par exemple, monétaire. En fait, on risque de pas tellement réduire les émissions parce que l'euro dépensé par les plus pauvres, il émet autant que l'euro dépensé par les plus riches. Voilà, sur la négociation climatique, en revanche, ça met des chiffres assez clairs sur le fait que il y a des pays qui sont plus responsables, il y a des pays qui sont pas responsables et qui souffrent du changement climatique. Et donc, ça objective un peu ces faits-là. Et donc, ça peut très clairement servir dans les négociations climatiques pour justifier un transfert massif des pays riches vers les pays pauvres, non responsables des émissions et qui subissent les dommages climatiques. Mais par contre, faire attention, ça suffit pas. Il faut aussi mettre en place des instruments de politique publique pour baisser les émissions.
Réduire les inégalités climatiques passe par la réduction des inégalités tout court. Et si la redistribution des richesses est essentielle, elle ne diminue pas les émissions. L'autre débat actuel porte sur le phénomène d'attribution. En entendant qui sont ces 10% les plus riches, vous vous êtes peut-être senti directement visé. L'individualisation de la responsabilité pose question alors que beaucoup de ces émissions sont du ressort du choix collectif. Tant que l'économie restera organisée autour de la croissance et des énergies fossiles, aucun effort individuel seul ne pourra compenser l'ampleur du changement climatique.
Merci Alexandra et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Merci à Marguerite Capelle pour la traduction. Merci Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulf, Francéline Lausanne, Lou Angers, Alexandre Morales, Loïc Dutoit. La réalisation, c'est Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, c'était François Saint-Jour. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.